Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Psychologie de l'inconscient de Carl Gustav Jung est un texte fondateur de la psychologie analytique. Rédigé dans la période où Jung prend ses distances avec Sigmund Freud et cherche à donner une forme autonome à sa compréhension de la vie psychique. Court mais dense, le livre appartient à la fois à l'histoire de la psychanalyse, à la théorie clinique et à la réflexion sur les symboles. Jung y reprend les acquis de la psychopathologie moderne, notamment les recherches sur les névroses, le trauma et les conflits psychiques. Puis, il les réoriente vers une conception plus large de l'énergie psychique. Le but central du livre est de montrer que l'inconscient ne se réduit pas au contenu refoulé de l'histoire individuelle ni à la sexualité. Il possède aussi une dimension collective, structurée par des images archaïques et des formes symboliques récurrentes. Le texte expose ainsi les bases d'une méthode clinique attentive aux rêves, aux mythes, aux attitudes psychologiques et aux processus de transformation intérieure. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la rupture avec Freud et le déplacement du centre explicatif de la libido. Le livre prend sens dans le contexte de la séparation intellectuelle entre Jung et Freud. Jung ne rejette pas entièrement la découverte freudienne de l'inconscient personnel ni l'importance du refoulement. Mais il conteste la tendance à ramener les conflits psychiques à une causalité principalement sexuelle. Son analyse conserve l'idée que les symptômes névrotiques expriment une tension entre conscience et contenu inconscient, mais elle élargit la nature de cette tension. Pour Jung, la psyché est animée par une énergie plus générale, capable de se manifester dans amour, ambition, création, religion, domination, peur ou code de sens. Cette énergie ne se laisse donc pas réduire à une seule source pulsionnelle. Ce déplacement est décisif car il modifie la manière de lire les symptômes. Une névrose ne renvoie pas seulement à un événement refoulé du passé, elle peut aussi signaler une impasse dans adaptation présente ou dans développement futur de la personnalité. Jung introduit ainsi une perspective plus téléologique que Freud. Le symptôme devient moins un simple reste pathologique et davantage un indice de déséquilibre global. Parfois porteur de transformation si le sujet parvient à reconnaître ce que la conscience refuse ou néglige. Deuxièmement, la distinction entre inconscient personnel et inconscient collectif, une contribution majeure du livre est la distinction entre inconscient personnel et inconscient collectif. Le premier correspond au contenu oublié, refoulé ou insuffisamment intégré de la vie individuelle. Il demeure proche de la clinique freudienne car il concerne les souvenirs, affects, complexes et expériences propres au sujet. Le second constitue une hypothèse beaucoup plus originale. Jung soutient que la psyché humaine porte des formes prépersonnelles, communes à l'humanité, qui organisent certaines représentations fondamentales. Ces formes ne sont pas des souvenirs historiques transmis tels quels, mais des structures de représentation qui se manifestent dans mythes, rêves, religions, images symboliques et motifs légendaires. Cette distinction permet à Jung de rendre compte des ressemblances entre production psychique individuelle et grand récit collectif. Elle explique pourquoi certains rêves ou fantasmes semblent dépasser la biographie personnelle du rêveur. Le concept ne transforme pas le patient en simple produit de mythes universels, mais donne au thérapeute une grille pour reconnaître des motifs symboliques qui excèdent le vécu individuel. Cette idée fonde une grande partie de la psychologie analytique et justifie l'intérêt de Jung pour mythologie, histoire des religions et comparatisme culturel. Troisièmement, les archétypes comme forme symbolique et non comme image fixe. Dans la perspective jungienne, les archétypes sont des dispositions formelles de la psyché collective. Il est important de ne pas les comprendre comme des images toutes faites que chacun posséderait intérieurement. Ils sont plutôt des cadres qui orientent la production de certaines images et de certains récits, lorsqu'un individu rêve de figures puissantes, de conflits initiatiques. De descente, de renaissance ou de personnages ambivalents, Jung y voit parfois expression de structures archétypiques. Ces motifs prennent toujours une forme particulière selon la culture, la langue, époque et histoire personnelle. Le livre ouvre ainsi une méthode de lecture symbolique qui refuse deux excès. Il ne réduit pas le rêve à une simple satisfaction déguisée de désir, mais il ne le traite pas non plus comme message mystique littéral. Le symbole est un phénomène psychique qui compense, révèle ou équilibre une attitude consciente trop limitée. Cette conception donne aux mythes et aux religions une valeur psychologique spécifique. Ils ne sont pas seulement des croyances collectives, mais des expressions historiques de formes profondes par lesquelles l'esprit humain tente de représenter ses tensions, ses peurs et ses possibilités de transformation. Quatrièmement, les attitudes psychologiques et la dynamique entre introversion et extraversion. Le livre annonce ou accompagne des éléments que Jung développera plus systématiquement dans sa théorie des types psychologiques. Il distingue notamment des orientations fondamentales de la libido psychique vers objet extérieur ou vers monde intérieur. Extraversion et introversion ne sont pas des étiquettes sociales simplistes, mais des attitudes générales par lesquelles la conscience distribue son énergie. Le sujet extraverti tend à chercher orientation dans les personnes, les événements et les exigences du monde. Tandis que le sujet introverti privilégie les représentations internes, les significations subjectives et la relation à ses propres images psychiques. Cette distinction a une portée clinique parce que la souffrance peut naître du déséquilibre entre attitude dominante et contenu négligesse. Une personne trop identifiée à adaptation externe peut être envahie par des images intérieures incomprises. Une personne enfermée dans son monde subjectif peut perdre le contact avec réalité relationnelle et pratique. Jung ne présente donc pas les types comme des catégories rigides, mais comme des tendances dynamiques qui aident à comprendre les conflits entre conscience et inconscient. Cette approche enrichit la thérapie en invitant à observer comment chaque individu investit son énergie et compense ses limitations. En dernier lieu, la fonction compensatrice des rêves et les exigences de la thérapeutique analytique, Jung accorde aux rêves une fonction centrale. Non parce qu'ils y voudraient un code universel immédiatement déchiffrable, mais parce qu'ils expriment une activité compensatrice de la psyché. Le rêve peut mettre en scène ce que attitude consciente ignore, surestime ou réprime. Il ne corrige pas la conscience par un discours rationnel, mais par images, tensions et scénarios symboliques. Cette fonction donne à analyse des rêves une place thérapeutique majeure. Le travail ne consiste pas seulement à retrouver un souvenir traumatique, mais à suivre les indications par lesquelles inconscient cherche un meilleur équilibre. Cette orientation impose toutefois une prudence clinique. Jung insiste sur le fait que inconscient peut être fécond, mais aussi perturbateur lorsque ses contenus débordent les capacités de intégration du sujet. La thérapeutique analytique vise donc une relation progressive entre conscience et inconscient, non une immersion incontrôlée dans les images intérieures. Elle demande discernement, patience et attention au contexte personnel. En cela, le livre se distingue par une conception de la guérison comme processus de réorganisation psychique plutôt que simple suppression du symptôme. En conclusion, Psychologie de l'inconscient convient surtout aux lecteurs qui souhaitent comprendre la naissance de la psychologie analytique et la différence profonde entre Freud et Jung. Il intéressera les étudiants en psychologie, les praticiens de la relation clinique, les lecteurs de psychanalyse et ceux qui étudient les mythes, les rêves ou les symboles religieux sous un angle psychologique. Son bénéfice intellectuel principal est de fournir un cadre pour penser la psyché au-delà du seul refoulement individuel. Le livre aide à comprendre comment un symptôme, un rêve ou une image intérieure peut signaler un déséquilibre entre attitudes conscientes et forces inconscientes, mais aussi ouvrir une voie de transformation. Son intérêt pratique reste indirect, car ce texte demande prudence et ne remplace pas une formation clinique. Il offre néanmoins des repères utiles pour reconnaître la valeur compensatrice des rêves. La puissance des archétypes et la nécessité de intégrer plutôt que nier certains contenus psychiques. Par rapport aux ouvrages freudiens classiques, il se distingue par son extension culturelle et symbolique de inconscient. Par rapport aux introductions modernes à Jung, il a avantage de présenter les concepts dans leur moment de formation avec une densité théorique qui permet de voir comment naît une pensée clinique originale. Si vous souhaitez soutenir Carl Jung, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.